Bienvenue au Pavillon Lancelin, très heureux de vous accueillir. Merci à Lina Gautmet d'avoir accepté notre invitation. Ça fait une dizaine d'années qu'elle a engagé une démarche d'abord collective avec DGT et puis seule depuis 2016, moment où elle s'est un peu, en tout cas pour les Parisiens, révélée en gagnant un des projets Réalimenter Masséna du concours Réinventer Paris 1 avec un promoteur ambitieux au premier rang, RTL. Et depuis, on a pu découvrir l'ampleur de son travail, la grande force et la grande capacité à allier des formes spécifiques et ambitieuses avec un vocabulaire également très recherché sur la matérialité des choses, sur le carbone et sur une façon de construire demain mieux, ce qu'elle appelle une anthropologie du futur ou quelque chose comme ça. Très bonne soirée à tous, merci beaucoup.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence ce soir. Je suis vraiment ravie d'être là et de voir vos visages, surtout sans masque. Et merci Alexandre, c'est vraiment un grand plaisir d'être aujourd'hui au pavillon de l'Arsenal, parce que ce lieu est vraiment un lieu où on fabrique le sens de l'architecture. Et la matière, comme tu le dis, intelligente, est toujours vraiment au cœur des manifestations qu'on voit ici. La matière, c'est quelque chose qui m'est cher dans mon atelier et dans ma pratique, comme beaucoup de mes confrères et consœurs présents ici. Et il est sûr, on parlait tout à l'heure aussi, que les urgences que nous vivons aujourd'hui rendent notre métier encore plus responsable. Il y a un sens à trouver dans ce qu'on construit, dans ce qu'on fait. Du coup, aujourd'hui, en fait, je vais présenter le projet de Beyrouth, mais comme une méthode de travail, comme à l'origine d'une manière d'appréhender le monde, d'appréhender la complexité, pour pouvoir parler de matière, mais aussi la matière à travers d'autres projets qui développent une matière durable, et de voyager de Beyrouth pour aller en Normandie à la fin. J'ai intitulé la présentation, en plus de Stone Garden, Penser, parce qu'on a pensé aujourd'hui, on a besoin de penser nos paysages. Et je commence toujours par cette photo, parce que c'est une façon de prendre de la hauteur, de se dire que penser l'unité, en fait l'unité et l'interconnectivité du vivant sur cette Terre, même si les scientifiques nous disent qu'on n'est que des microbes, plus qu'êtres humains, et que finalement, on est constitué de 57% de micro-organismes et 43% de cellules humaines. Ce qui nous amène toujours à penser et à réfléchir à la question du destin de l'architecture et de combien de nature existe-t-il dans l'architecture. Cette question est constamment présente à Beyrouth, une ville qui est toujours comme une archéologie ouverte, dans laquelle j'ai grandi et où se mêle la nature avec ses civilisations englouties sous la terre et qui s'y révèle permanemment à chaque fois qu'il y a une fouille, à chaque fois qu'il y a une destruction, mais qui révèle aussi le rapport intrinsèque que nous avons avec notre milieu, avec la terre et avec la matière. Beyrouth est aussi une ville qui matérialise sur une géographie qui est assez restreinte les défis que nous vivons aujourd'hui. C'est un tout petit pays, mais à la fois les problèmes qu'il y a aujourd'hui nous parlent de défis de logement, comme cette photo que j'avais prise en faisant mon chantier, défis de logement, de migration, des guerres avoisinantes, de déchets, de comment gérer les ressources. Et qui instaure finalement une action individuelle et une action par la micro-échelle, et aussi en société et parfois sans gouvernement. De plus de ces défis, il y a les défis de la place de l'histoire, de l'architecture, de la mémoire dans la ville, comme on voit ici cette photo de Beyrouth vers les 1890. Et qui se transforme en une ville qui est constamment en train de se réécrire, de finalement se réécrire par la promotion immobilière, par la construction frénétique qu'on voit dans le monde entier. C'est des moments aussi apocalyptiques que cette ville vit et qui plonge constamment dans un passé tourmenté qu'elle a constamment vécu. Et on voit ici ce moment après l'explosion du port en 2020 qui transforme le paysage autour. Ben, ces moments, en fait, nous invitent en tant qu'architectes à lire le territoire autrement et nous poussent à ouvrir de nouvelles perspectives pour transformer ce paysage. Et ici, on voit en fait ce bâtiment avec lequel j'ai commencé ma pratique en tant qu'architecte en association avec mon agence DGT. Et on a réalisé ce musée qui est en continuité avec cette piste ex-militaire soviétique et qui finalement, par l'architecture, raconte ce rapport à l'espace, à l'histoire et comment peut-être transformer un peu l'histoire par le bâti. C'est aussi un lieu qui tente d'offrir à une nation une plateforme publique, un espace pour fabriquer l'identité. Donc c'est un musée national, mais c'est un musée ouvert où l'identité peut être multiple, où c'est une plateforme pour se rassembler autour d'un concert. Là, à l'occurrence, c'était Metallica sur la piste. Mais c'est aussi un espace où il y a un inattendu, en fait, c'est des espaces qui ont été appropriés de façon inattendue, où les artistes viennent créer, s'approprier des espaces qui n'ont pas été créés pour être appropriés, comme ce porte-à-faux, en fait, dans lequel les cinéastes viennent créer et s'inspirer, approprier. Ce vécu à Beyrouth aussi m'a ramené assez fréquemment à penser l'espace et là, un peu plus loin, une pensée, une affection aussi à l'Ukraine, à Kiev, à Kiev où on a eu l'occasion de travailler sur ce musée. Qui est un musée, un concours en fait sur lequel on a eu un prix et qui est le musée de la révolution de la dignité et c'était à la suite de ces événements qui ont eu lieu en 2013-2014, la révolution à Maidan Square, et où il y a eu 130 morts. Et ils ont voulu construire un bâtiment qui commémore ce moment-là et l'ancre dans l'histoire de l'Ukraine, avec ce bâtiment qu'on a imaginé comme une sorte de montagne, une élévation qui culmine sur la hauteur de la ville. Et qui exposerait à l'intérieur les débris de cette manifestation qui a eu lieu. Donc ces contextes, en fait, nous invitent, en tant qu'architectes, de se mettre toujours à l'œuvre et pour construire, peut-être espérer ne plus avoir à reconstruire, quelque chose que j'espère aussi dans notre environnement. Et à travailler toujours à la main, parce que la main, c'est un peu l'extension de notre corps, de notre pensée, et ça nous permet de s'ouvrir au monde. Peut-être pour aussi intégrer la complexité et la rendre intelligible, parfois heureuse, à travers l'architecture. Et là, on voit avec toutes les matières qu'on teste à l'agence, ou même cette sorte de mur que j'appelle archéologie, et qui constitue à chaque fois, à chaque projet. Avec des multiples formes qu'on essaye de tester, qu'on développe et qui nous font aboutir à des projets comme ce musée au Liban qui est enfoui dans un terrain, dans une montagne. C'est un bâtiment qui est passif et qui est dédié à archiver une collection autour des artistes qui ont dépeint le Liban. Et qui tente de s'harmoniser avec son contexte comme un sorte d'animal enfoui, passif, où la collection conserve le territoire. Ou cet hôtel, qui est un hôtel rural dans les vignobles aussi au Liban. Mais ces projets qui attendent aussi de meilleures conditions en fait, au Liban pour se construire et se réaliser. De cette échelle, cette démarche, cette réflexion autour de la matière, autour de la construction et le sens de la construction nous ramène à travailler des échelles multiples comme ce bar qui est en terre compactée et qui a été au Palais de Tokyo. Et parfois aussi aller jusqu'à la fabrication d'une chaise, le détail de travail de bois et cet objet qui est proche du corps et qu'on s'approprie. Dans un espace comme celui du restaurant parisien où tout a été sur mesure, mais aussi la joie de la matière avec ce travail de verre qu'on a travaillé avec des artisans et qui se transforme dans le processus de fabrication. Parfois avec un mélange de bois et du métal pour habiller une boutique d'un chocolatier sculpteur à Paris. Et de quelque chose qui est construit et palpable à quelque chose qui est éphémère dans une forme de mise en scène d'exposition au Japon, juste avant le Covid, parce que maintenant on peut moins voyager en ce moment, qui a été réalisée il y a 2 ans. Donc toutes ces formes prennent genèse d'une recherche et d'une longue histoire finalement d'évolution et peut-être une évolution pas linéaire, un peu révolution d'un certain sens, comme si l'architecture est située entre archéologie, humain, nature et futur. Dans un sens, c'est pour apprendre du passé. L'archéologie, elle est inclusive, elle est humaine, elle essaie d'être équitable. Elle est symbiose avec la nature et capable parfois de nous projeter dans le futur, dans chaque nouvelle construction qu'on fait. C'est une forme d'archéologie du futur, qui peut être aussi anthropologie du futur, pourquoi pas, et qui nous invite à émerger d'un lieu, comme une nouvelle pièce qui serait ancrée en fait dans le paysage, en résistant et en répondant à la nature de son milieu. Ici, on voit ce film en fait qui a été pris par Arte après l'explosion et qui a pris aussi le bâtiment de Stone Garden en prenant cette étendue en fait de déflagration autour. Et on voit la façade émerger dans ce tout proche du port en fait de Beyrouth. Donc on n'est pas loin en fait de ce site-là, mais on est aussi très proche du centre-ville de Beyrouth. Donc Beyrouth qui a été complètement détruite après, surtout son cœur en fait après la guerre, rénovée, mais aussi qui a perdu d'un certain sens le mémoire de ce qui existait après cette destruction, par cette rénovation, par cette réhabilitation. Cette mémoire qui existe parfois dans les livres, et dont ce livre qui a été publié en 92 sur Beyrouth, où il y a eu le travail de 6 photographes qui ont arpenté la ville et qui ont quelque part gardé en fait la mémoire du centre-ville. Un des photographes, c'est Fouad El-Khoury, qui avec sa famille est un des propriétaires du terrain sur lequel on a construit Stone Garden, et qui vient me voir, il a envie de construire un projet puisqu'il a hérité ce terrain. Et pour l'anecdote, Fouad, il a commencé ses études en architecture. Il était sous la pression de son père qui voulait qu'il soit architecte et non photographe. Et il a rencontré Zaha Hadid en promo et me raconte que Peter Cook demandait qui veut construire où, et Zaha Hadid a décidé de construire sur la Lune. Et c'est là où Fouad El-Khoury a décidé d'être photographe. Et puis, pour retourner sur le terrain, donc c'est un terrain qui est sur la frontière du centre-ville, à côté du port de Beyrouth. On a ce bâtiment existant qui était en fait la première manufacture de béton à Beyrouth. C'est aussi le bureau de Pierre El-Khoury, qui est le père de Fouad et qui a hérité en fait ce terrain. Donc il y a toute cette question de mémoire, de ce rapport à son père, mais aussi à la ville, à ce lieu qui est à la frontière du centre-ville, dans une zone qui est complètement en développement. D'ailleurs, en fait, juste en face, il y a eu des grands créateurs qui ont établi leurs ateliers, dont Rabia Kairouz et d'autres. Et il se trouvait finalement sur ce terrain-là qui est assez exigu. Et il fallait trouver aussi, pour construire ce projet, un promoteur, un programme pour rendre le projet viable. Donc l'idée, c'était de construire des logements avec comme une sorte de communauté d'artistes et de créateurs qui pourront habiter dans ce bâtiment. Et puis réaliser une fondation qui serait dédiée à l'art et à l'image du Moyen-Orient. Ce qui ferait peut-être naturellement écho aux photos qui ont été prises pendant cette période-là en 92, dont là on voit les photos de Gabriel Basilico à l'occurrence, ou de Fouad. Et c'est des photos qui, beaucoup de Libanais qui ont vécu de la guerre, nous ont toujours marqué, que ce soit de visu ou inconsciemment dans notre vécu de la ville de Beyrouth. Et qui me marque aussi parce que, quelque part, quand on regarde ces photos, on voit que, surtout cette photo où on voit le personnage, que finalement, l'humain devient à l'image de son environnement frêle. Et ça nous fait rappeler, en fait, du lien intrinsèque qui existe entre nous et notre environnement et le bâti. Donc le projet de Stone Garden, il se saisit en fait de ces instants, qui sont des instants marquants de la ville. Et il questionne en fait le rapport à l'espace, à l'habitat et à l'ouverture dans la masse. Qu'est-ce que peut être une ouverture dans un bâtiment ? Et se pose la question, est-ce que la nature en fait peut aussi exister dans ce bâti ? Avec des ouvertures qui deviennent des cadres de vie, qui donnent une autre qualité peut-être de vie à l'intérieur, et qui aussi peut-être parlent du langage de la structure, en fait, puisque toutes ces ouvertures sont aussi calculées par rapport à la charge structurelle du bâtiment. Donc on a toute cette répartition aussi de structures qui vient dessiner et me guider finalement dans les dessins de ces ouvertures. Et puis un travail en fait de la peau pour venir optimiser la structure béton. On est dans une zone sismique 7, donc on ne pouvait pas construire en terre. Pour ceux qui croient que le projet en terre n'est pas en terre, en fait c'est une structure en béton qui résiste aussi à une zone sismique assez importante et qui est maillée en fait à l'intérieur de la façade avec un maillage en métal. Donc j'aime beaucoup ce travail en fait aussi où on voit en fait la constitution de la matière qui finalement dessine un bâtiment. Et les ouvertures, en fait, c'est vrai que quand je visitais ce chantier, elles avaient en fait une portée critique. Elles sont pas seulement des fenêtres dans le sens où elles deviennent des dispositifs qui permettent en fait de voir autrement la ville, où on est en train de cadrer la ville, on cadre ses instants, et ces instants multiples, et parfois qui sont contradictoires aussi, avec des détails en fait, où on voit Beyrouth d'une autre façon dans l'intérieur de ces appartements, et qui nous invite à réfléchir à la ville et à contempler en fait l'extérieur plutôt que de l'ouvrir complètement vers l'extérieur, tout en habitant en fait le quotidien, et parfois aussi de retrouver une façon de revoir en fait la mémoire de la ville dans ces grandes baies qui ouvrent dans la masse et qui viennent transformer en fait cette mémoire par la vie et par l'appropriation à l'intérieur de ces appartements. Donc il y a certainement la vie humaine, parce que voilà, c'est des logements où on va habiter, mais il y a aussi la vie au sens large, la vie parfois végétale, donc la nature. Et en pensant aussi à ce climat méditerranéen où le végétal existe, pousse un peu partout, et qu'on voit aussi dans la ville. Et ça, c'est une photo que j'ai prise récemment, puisque les appartements n'ont pas été rénovés et ils sont banchés encore en bois. Et donc, on voit en fait comment la nature prend le dessus et pousse finalement dans les fenêtres. C'est un végétal aussi qui existe différemment dans cette ville, Beyrouth. Il est organique, il est plutôt vivant. En fait, ça pousse un peu dans toutes les interstices, à travers des ruines. Et l'idée, c'était de travailler avec ce langage, avec ce qui existe en fait autour dans Beyrouth, mais aussi de penser les échelles de la végétation depuis la micro-échelle, peut-être parfois en fait le petit pot de fleurs, jusqu'à l'arbre en fait qui peut pousser dans une grande ouverture. Et là, toutes ces ouvertures ont ces échelles multiples où on a cette petite ouverture où il y a un petit pot de fleurs ou des plantes plus petites où on a un plus grand, alors plus de terre et plus de végétation. Mais ces ouvertures aussi sont des prétextes en fait pour créer des appartements qui sont différents à chaque étage. Donc chaque étage devient différent de l'autre. Quelque part en fait, c'est une façon aussi d'individualiser les appartements dans un paysage comme on voit ici derrière cette tour, des tours plus grandes, et qui finalement parle de cette multiplication du plan type en fait de logement qui vient se répéter sur la hauteur en fait dans le ciel de Beyrouth, mais dans le ciel aussi de beaucoup d'autres villes. Et ces plans, en fait, là j'ai téléchargé quelques plans sur Internet de plans promoteurs en fait qu'on voit et où on voit vraiment cette sorte de plan type, le produit, et qui vraiment se duplique en fait. Il y a cette symétrie, cette agrégation, et qui vraiment se multiplie d'un étage à l'autre. Et peut-être avec ces ouvertures, il y a la possibilité de trouver des appartements différents à chaque étage, des conditions d'appropriation aussi différentes, un plan qui serait plus libre à l'intérieur pour être aménagé, et avec des échelles végétales plus larges à certains étages pour individualiser la façon de vivre avec un étage ou un duplex ou différentes façons d'habiter. C'est sûr, là, en fait, on est dans ce qu'on peut appeler le volume capable, parce que en tant qu'architecte, je n'avais pas à tout dessiner, tous les niveaux. Chaque propriétaire a dû rénover son propre appartement. On avait à rénover quelques-uns, mais c'était aussi la flexibilité de ce bâtiment. On voit ici sur la coupe aussi comment le bâtiment se dessine dans son contexte, ou plutôt vraiment en lien avec la topographie. Donc dans le nord, en fait, on est sur une rue plus basse. Il y a 3 étages de différence entre le nord et le sud du bâtiment. Et dans ces étages se développe l'entrée, une fondation, et puis un parking qui est accessible du 3e étage. Et puis après se développent les appartements jusqu'au 13e et 14e étage du bâtiment. On voit aussi la profondeur en fait, puisqu'il y a des parkings en sous-sol, puisque la réglementation oblige d'avoir des voitures pour chaque appartement. Et puis à l'entrée, il y a cette sorte de cocon en fait qui nous invite vers l'intimité en fait de l'habitat. Et pour entrer dans les appartements, qui ici, c'est des photos qui ont été prises en fait avant, vraiment 2 mois avant l'explosion. Et c'est les seules photos que j'ai des intérieurs vraiment avant qu'ils soient livrés, parce que le bâtiment a été terminé vraiment au moment où il y a eu cette explosion. Donc j'ai pas eu beaucoup de photos sur les intérieurs. Et on voit ce rapport à l'extérieur qui est cadré par la végétation. Puis un état aujourd'hui qui est un peu en cours de rénovation dans le bâti, avec tout ce travail en fait de mise en place sur les fenêtres, comme un peu comme un chantier éternel qui revient. Et on voit aussi dans ces photos ce rapport au végétal à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur là dans l'appartement, ces cadrages en fait où on cadre la ville et qui devient presque comme une photographie accrochée à l'intérieur de l'appartement. Donc c'est un peu une sorte de jeu scénographique qui opère. Et puis dans l'épaisseur, en fait, pour rentrer un peu dans la technique, on est dans cette épaisseur variable de la peau qui varie entre 35 cm et au-delà. Et puis l'intégration du végétal dans ces épaisseurs-là et qui viennent être plantées, irriguées dans un système central dans le bâtiment. On est aussi dans un rapport à l'espace qui est différent de celui qu'on expérimente à Paris, mais des appartements qui sont plus petits de ce qui est vendu réellement au Liban. Donc c'est des appartements de ville à prix moyen et qui s'ouvrent vers la ville, où on a essayé en fait de profiter finalement de tous les interstices pour s'ouvrir vers l'extérieur et créer des perspectives parfois nouvelles en fait vers le contexte. Et on regarde aussi toujours côte à côte la nature avec des situations qui sont particulières en fait dans Beyrouth. Aussi un lieu où on permet de sentir l'urbanité de ce site, où on épouse vraiment le contexte en fait qui est autour de soi. Et le bâtiment, en fait, quand on voit cette forme-là, c'est une expression de la réglementation urbaine. C'est toutes ces lignes, en fait, qui généralement sont écrites par les textes et qui sont des lignes invisibles. Et que dans ce projet, j'ai voulu rendre visible par cette volumétrie qui vient épouser les gabarits et créer parfois des conditions qui sont différentes, en fait, pour les appartements. Mais c'est aussi une façon d'ancrer en fait cette volumétrie dans le sol et de rendre la végétation comme un moyen de dessiner en fait le lien avec des moments qu'on voit ici par exemple derrière avec cette végétation au sol qui fait écho avec la végétation dans le bâti lui-même. Ce rattachement au sol, en fait, il est aussi manifeste dans la galerie, en fait, la fondation qui est au rez-de-chaussée, qui est accessible, qui est une fondation pour l'image à but non lucratif. C'est une plateforme aussi d'échange autour de l'image au Moyen-Orient. Elle est aujourd'hui laissée dans son aspect brut, c'est un lieu un peu vide où il y a la possibilité de s'approprier, d'exprimer ce rapport à la photographie, mais qui aussi met en avant le pouvoir en fait, de la création à résister et à créer d'autres moments. C'est quelque chose qu'on a essayé aussi de raconter à la Biennale de Venise avec cette maquette. Et surtout à travers les intérieurs en fait, de la maquette, il y a toute une scénographie en fait, dans cette maquette qui a été produite au 30e, à l'échelle 30e. Et à l'intérieur, on voit ces photos en fait, d'artistes libanais qui persistent en fait, et qui créent tout finalement l'énergie en fait, de ce pays-là et qui racontent la ville comme un terreau créatif par cette diversité et par l'hétérogénéité. Et on a par exemple exposé le travail de Grégory Bouchakjian qui lui prend des clichés en fait de maisons abandonnées ou bien le travail de Gilbert Hage qui nous plonge un peu dans ce bleu éternel qu'est Beyrouth. Et puis on trouve aussi des scènes de films, des micro-scénettes en fait avec des films et des films parfois qui ont été pris dans les années 80 où les gens racontent leur vécu, un vécu qui continue à persister en fait à Beyrouth actuellement. Et parfois aussi dans ces écrans, on raconte l'histoire de la fabrication de la façade de ce bâtiment. Ce travail manuel en fait, que j'ai voulu entreprendre localement avec une peau qui serait labourée à la main. Donc, c'est vraiment travaillé presque avec une technique vernaculaire dans le sens où c'est un enduit en fait, et puis essayer de le réinventer pour raconter cette émergence en fait, à travers ce bâti. Comme si en fait on venait labourer le sol et comme si cette façade était comme un labour en fait une terre labourée verticale avec un outil qui serait dessiné sur mesure où on a dessiné ça et puis commencé à tester. C'est un peigne en fait qui est dessiné qui est fabriqué sur place par les artisans en métal et qui fabriquait à plusieurs reprises finalement, et qu'on vient travailler avec ce peigne pour peigner la façade avec des ingrédients multiples, que ce soit de la terre, du ciment, des fibres pour renforcer cet enduit, et venir habiller, travailler cette peau qui devient une peau sensible, mais une peau aussi fabriquée à la main, qui démarre en fait finalement avec un travail à l'atelier qui est fait avec des sortes de tablettes en argile où je travaillais avec la fourchette finalement pour créer ces lignes, en fait, se poser la question de l'échelle, du rapport à la matière, de la couleur aussi, multiplier ce travail-là, parfois un peu obsessionnel. Et en fait, finalement, travailler avec les artisans qui eux, finalement, font partie du processus émotionnel de travail et de fabrication et de mise en place. Ils fabriquent le projet, ils sont orchestrés par ce chef de chantier qui est lui-même aussi très content par les publications, surtout. Ça l'a motivé pour rendre le projet un bon projet. Et puis une équipe qui s'approprie le lieu et un peu profite des différents espaces. Et puis ces plis finalement épousent la forme de ce bâtiment qui lui épouse en fait son site, et tous les plis, tous les angles. Et à des moments aussi, le bâtiment, il vient se greffer en fait à l'existant. Donc, il devient une plus petite échelle, un existant qui est assez modeste en fait dans sa forme. Et parfois aussi, on le lit comme une coupe. En fait, cette photo de Iwan Ban est toujours est assez frappante parce que je la regarde et je me dis, mais c'est finalement ces ouvertures et cette sensation de coupe en fait permanente à Beyrouth se retrouve aussi autrement dans le bâtiment. Et toujours dans un contexte pareil, on ne peut pas en fait saisir le bâtiment d'un seul angle. Il se transforme en fait à chaque fois qu'on bouge. Il donne une autre vue vers la ville et dans la ville. Par exemple, au sud, là, sur la rue qui est plus élevée, on voit ces formes en fait qui sont nées du gabarit en fait de ces lignes rouges en fait qu'on trace et qui laissent apparaître le ciel. On rentre aussi là par le parking, sur le parking intermédiaire du bâtiment. Et au nord, en fait, on a des ouvertures qui sont plus grandes, puisqu'on est ouvert à la mer, mais aussi, c'est un climat méditerranéen, donc on ne veut pas avoir trop de soleil aussi au sud. C'est aussi une sorte de soustraction de masse. On voit ces grandes ouvertures sur double étage, en fait, qui créent aussi une qualité dans les appartements à l'intérieur. Une sorte de forme peut-être parfois un peu de vernaculaire. J'ai eu ces remarques en fait d'un bâtiment qui est une forme vernaculaire, peut-être aussi parce que ce n'est pas un bâtiment en verre en fait, qu'il faut climatiser. Ça s'inspire de ces ouvertures qui sont plus modestes et qui sont à la taille des appartements à l'intérieur. En fait. Ils sont assez généreuses vers l'extérieur, mais à la taille de ces appartements et qui crée un rapport à l'histoire et peut-être avec ce vernaculaire résiste des moments d'instabilité comme cette explosion qui a eu lieu, mais qui finalement a soufflé les appartements qui sont en train d'être rénovés. On voit les branchages en bois sur certaines fenêtres. Mais la nature, elle reste, elle, ancrée en fait dans ces jardinières. Et puis, c'est vrai que sur cette façade-là, en fait, on est sur une façade qui serait un jour vouée à être recouverte par les bâtiments qui peuvent construire plus haut. Donc, c'est une façade où on a des ouvertures plus petites, qui sont des ouvertures vers les cuisines, vers les salles de bain. Et puis, de ce côté-là, le bâtiment crée un rapport à la rue, aux habitants qui habitent en fait, le contexte. Et qui continue à s'approprier la rue en bretelles. Et permettre de faire partie, finalement, le bâtiment de la vie quotidienne. En fait, ce bâtiment à côté, derrière, qui est blanc, est voué un jour, si le propriétaire le veut, être détruit et reconstruit en une tour, puisque la réglementation, le COS, en fait, permet d'aller plus haut. Après la construction de la tour, et il a décidé de rénover son bâtiment et de garder finalement cette structure, ce qui est plutôt bien. Et puis là, on retrouve un peu des moments en fait, du quotidien dans ce bâtiment. Donc je parlais de cette façade-là qui un peu se dessine en fait, le contour, un contour plutôt amorphe en fait, où il ne s'agit plus de faire un bloc en fait, uni, mais peut-être sculpter le ciel, et d'avoir ces petites ouvertures qui rappellent parfois les façades mitraillées, mais c'est peut-être un sens littéral, mais c'est plutôt un rapport aussi à l'espace intérieur, qui sont des espaces de ventilation ou des espaces de ventilation pour les espaces de service. Et des alignements de ce côté où le bâtiment disparaît, il devient un peu invisible dans ce contexte-là, et réapparaît face au port de Beyrouth, qui attend toujours finalement une reconstruction, mais surtout des réponses. Et résiste en fait la destruction de l'environnement. Cette photo qui a été prise par Lauriane Guinitouyou, où on voit une condition un peu absurde en fait, comme si c'était une photo dans les années 80 avec cette façade éventrée et puis ce bâtiment un peu qui vient d'un moment intemporel. De Beyrouth en fait à Paris, d'un moment un peu traumatique ou apocalyptique, mais on parle de résilience aussi. On parle aussi de climat, on doit parler de climat aujourd'hui, et la question de la résilience est centrale finalement dans le bâti. Et ici, dans ce projet pour réalimenter Masséna, donc qui a été lauréat de Réinventer Paris dans le 13e, la recherche de la forme est autour de l'alimentation durable. C'est un peu comme un clin d'œil en fait à Bosch avec cette peinture de l'humanité avant le déluge. Comment créer un jardin de délices dans la ville. Ce qui nous invite aussi à travers le bâti de penser en fait au gaspillage alimentaire et de dédier un lieu qui serait dédié finalement à une manière d'apprendre à manger autrement. Et c'est un lieu qui est autour de l'alimentation durable. Ce que l'alimentation générale dirait, c'est de la fourche à la fourchette, où tout devient un cycle circulaire, où on est dans un lieu où on peut se cultiver et développer une économie circulaire. Mais aussi peut-être penser une forme qui peut être elle-même écho à cette circularité, avec ces rampes qui montent en fait et qui arpentent cette tour et montent en verticale, relient les étages. Et puis un programme qui lui-même aussi, finalement, par sa mixité, parle de la circularité. Donc on peut semer, vivre, faire revivre, recomposter. Et où la matière serait biosourcée, un peu à l'image de la nature qui nous constitue et qu'on habite et qui nous habite. Un peu sur le toit, on peut planter, mais c'est aussi faire de la recherche avec AgroParisTech, un lieu pour apprendre et partager, et peut-être un autre pour habiter le quotidien. Dans ce bâtiment, tout était pensé de façon à réemployer, donc on gaspille rien, la nourriture est toujours recompostée, réemployée dans les espaces d'agriculture. Mais aussi, le mode constructif est voué au réemploi, puisque c'est une construction bas carbone, en bois, comme on voit ici dans cette maquette. Avec une fondation en béton, un bâtiment aussi qui hésite avec le bois, puisque la réglementation est toujours en mutation permanente, donc on est tout le temps en train d'adapter aussi le type de construction dans ce bâtiment, et essayer de résister en fait à l'épreuve du temps avec ces multiples histoires de ce projet et avec ces maquettes. Et peut-être qu'il verra le jour dans les années à suivre. Entre-temps, en fait, à Angers, sur le bois, on travaille aussi sur cette structure mixte, en fait, bois avec calque, et un projet qu'on a remporté, et qui, finalement, est une expression un peu des échelles multiples, en fait, qui peuvent se jouer à l'intérieur d'un même bâtiment, un peu une sorte d'échelle multiple d'habitat, où on passe de l'habitat avec une communauté plus petite jusqu'à la tour, pour finalement peut-être essayer de créer une densité qui est plus habitable, même si on a des mètres carrés qui sont assez denses à construire. Comment en fait créer en fait cette micro-communauté à travers chaque bâtiment, chaque petit bâtiment qu'on peut dessiner et qui finalement se dessine et se multiplie dans le site. Là, on voit une maquette en fait du projet et qui s'ouvre en fait sur un étang. À Angers, c'est l'étang Saint-Nicolas qui est juste en face du bâtiment et prolonge finalement la nature en fait dans la cour, dans ce L en fait qu'on urbainement on a dessiné pour ce bâtiment et qui prolonge le jardin à l'intérieur de l'îlot, permettant parfois aux enfants de jouer, de courir. Et en parlant de course, en fait, le bois, il continue dans le village olympique. Et là, pour le village des athlètes, on parle de l'outil, on parle du rapport à la main, à la tactilité, à la matière, en ramenant en fait un clin d'œil finalement au javelot, au travail avec les outils que les athlètes manipulent, et qui a vu une évolution à travers le temps. Et on retrouve en fait cette tactilité dans les habillages de logements qu'on développe et qui sont en construction actuellement, avec cette multiplication en fait qui est presque chronophotographique des mouvements et qui se réverbère dans la matérialité des façades de construction en bois qu'on voit ici. Mais aussi sur un travail qu'on a mené sur les typologies de logements pour développer des logements qui seraient traversants, mutables, puisque c'est des logements pour les athlètes, qui vont devenir aussi des logements en accession. Donc c'est des logements qui peuvent se transformer, mais aussi sur lesquels on s'étend vers l'extérieur avec cette troisième peau qui s'ouvre vers l'extérieur et qui module les logements à l'intérieur. Et un rez-de-chaussée qui serait généreux, en fait, et qui, avec une grande hauteur, mais aussi qui s'inspire de la cité du cinéma qui est à côté, en fait, de ce site à Saint-Denis. Donc là, c'est vraiment l'expérimentation de construire avec logements denses et comment donner, en fait, une matérialité, une tactilité, une évolutivité à ces habitations. Et juste, je passe ici du cinéma à la danse, à Tours, en fait, avec ce centre chorégraphique qu'on développe et qu'on a remporté, et qui, cet retour un peu dans la recherche du projet à la danse primitive, et je montre un peu, à fur et à mesure, ce qui nous inspire, en fait, c'est un peu cette sorte de mind map, en fait, qu'on développe à chaque fois dans les projets et dans la conception, cet écho à l'archéologie. Et finalement, de la danse primitive à la danse dans l'espace, pour un centre chorégraphique pour Thomas Lebrun, qui est un chorégraphe de Tours, et qui nous rappelle du rôle social que la danse peut avoir dans la culture, dans le rapport à l'émotion, le mouvement, et dans une ville, finalement, qui, dans le centre-ville de Tours, on a ce rapport à la danse par l'architecture, avec ces bâtiments qui s'orchestrent, et qui raconte, en fait, cette répétition, ce mouvement. Et sur le site même du projet, il y a cette ancienne caserne militaire. Je ne sais pas pourquoi on revient toujours aux des espaces un peu ex-militaires où il y a cette question de mémoire en fait dans le lieu. mais qui inspire aussi le mouvement dans le bâtiment. Donc c'est toute l'expérimentation qu'on a menée à l'atelier avec ces volumes qu'on vient agréger pour créer et raconter un peu le mouvement en ville dans ce bâtiment qui s'ouvre sur un parvis et qui permet, dans l'architecture qu'on propose, de s'ouvrir et ouvrir la danse au parvis, avec une grande entrée qui permet de s'étendre sur le parvis en face, et avec des plis sur la façade, qui racontent aussi cette répétition, ce rythme, jusqu'à la matière de la façade elle-même, où on travaille ce rideau de briques qui crée une vibration dans la matière elle-même et amène finalement à la tactilité et au rapport du corps dans la ville. Ce qu'on voit dans ces diagrammes, c'est cette ouverture en fait du studio jusqu'à l'entrée, jusqu'à l'extérieur de la ville, et l'extension possible en fait de ce bâtiment dans ce parvis ou sur ce parvis. Ici, dans cette vue, on voit aussi l'entrée en fait de ce bâtiment où elle est ouverte aussi sur le studio, qui est un studio de danse un peu plus expérimental, informel. Et puis il y a cette salle en fait qui est un peu plus pour les spectacles qui sont plus finalisés et qui plonge un peu dans un rapport de bois, de lumière et de mouvement des habillages. Et j'aimerais juste finir avec ce projet que je vais un peu détailler plus puisque c'est un peu le rapport encore plus durable à la matière et au développement en fait d'un bâtiment de manufacture et de production qui serait E4C2, donc c'est un bâtiment passif bas carbone, et c'est un premier site de production qui est en cours de construction, qui a ses ambitions environnementales assez poussées. Et ici, en fait, on part de l'échelle de la main, donc de gestes, en fait, de ce rapport à la précision et de ce rapport à la matière, en fait, du geste précis, des multiples gestes aussi qui tissent un micro-rapport avec la matière qui est manipulée, qui est transformée pour construire une œuvre ou un objet. Et on était fascinés en fait par cette micro-échelle, par cette matière, on se posait la question comment en fait on peut ramener cette micro-échelle dans l'architecture du bâtiment. Et peut-être raconter la trace un peu à l'image de cette œuvre de Li Yufan qui a été faite en 73, et trouver un peu cette trace dans la matière du bâtiment qui fait écho à ce qui est en train d'être fabriqué à l'intérieur. C'est une échelle de la main qui peut-être fabrique la matière dans un site qui est en Normandie, donc on est à côté d'un centre-ville qui est très construit dans une muraille, et sur un site qui, je dirais, respire l'eau, parce que c'est très humide, on est en Normandie, dans une nature qui est assez intéressante, qu'il faut un peu écouter, et étonnamment avec un petit cèdre du Liban sur le site. Et du coup, ce bâtiment, qui est une manufacture, devait quelque part en fait exprimer le temps, puisque c'est le temps de fabrication, de confection à la main. C'est un processus, c'est une évolution aussi. Donc, c'est un bâtiment qui pourrait être voué à évoluer dans le temps, à s'agrandir. Il aura une certaine modularité. Il exprime le vivant parce que c'est un bâtiment en symbiose avec la nature, avec son contexte, avec la nature qui du site, mais aussi qui exprime la matière. Et puis un outil de travail, donc par son évolutivité, mais aussi où les artisans peuvent se sentir bien, où on a ce rapport à la main, au spécifique, au générique, à la multiplication, aussi à l'exception. Du coup, la forme, en fait, qui était un peu naturelle, qu'on a développée après des recherches, était cette sorte de grille, en fait, qu'on peut développer et qui vient s'implanter sur le site et contenir le programme, mais aussi qui peut évoluer avec le temps. Une grille qui serait percée avec des circulations qui passent, mais aussi modulée avec les ateliers qui peuvent occuper l'espace, interceptée pour créer des espaces de rencontre au sein de ce bâtiment, et qui épouserait en fait le site, un peu comme ce travail en fait de Toshio Shibata, qu'il a fait pour Fukushima en 2016, qui est une sorte de structure en fait, qui épouse en fait le contexte, et qui vient contenir ces multiples fonctions en fait, qui s'orchestrent à l'intérieur en fait, et qui, où on rentre vers un extérieur. Donc on est invité à rentrer par la nature qui devient intérieur et extérieur dans le bâtiment. Et pour parler de matière, en fait, ce qui était la matière un peu naturelle avec laquelle on pouvait travailler, c'était un peu la brique, parce qu'on est dans un site où il y a 3 briqueteries artisanales pas très loin du site, et qu'on a commencé à visiter pour comprendre en fait, le processus de fabrication. Et bien sûr, les artisans là sont passionnés de leur métier, de cet processus, montrer le four en fait, où la brique est cuite. On voit ce four aussi qui est un four circulaire où on est en train s'échapper au feu en fait avec les briques. Et on a ce rapport à la terre parce que les briques en fait sont cuites de la terre du site et excavées du site finalement et puis séchées. Et dans le processus de séchage, on voit ces formes en fait qui viennent se constituer. Et puis placé en fait pour être cuite après. Et quand on regarde en fait finalement quand on construit en brique, la portée naturelle en fait d'une structure en brique, si on veut créer une ouverture, c'est l'arche. Et on a commencé à travailler l'arche avec la plus grande portée possible, mais aussi de voir comment cette arche pourrait être optimisée, et dans le calcul aussi de la structure, optimiser la quantité de briques qu'on peut utiliser pour créer en fait une sorte de poésie de la forme, mais aussi de vraiment moduler cette tension entre l'arche et le poteau, qui vient rappeler en fait les galops des chevaux, puisque c'est un espace aussi où on fabrique de la sellerie, et exprimer en fait ce contexte. Là, on voit en fait cette maquette aussi, ce travail qui est toujours entre le dessin, la recherche, mais aussi le travail de maquette qui nous permet de tester les espaces. Et c'est une maquette qui a été exposée récemment à Copenhague et qui un peu voyage aujourd'hui. Et puis, voilà, on voit un peu les différentes tailles d'arches dans ce bâtiment. Cet travail de brique nous ramène finalement à l'échelle de la main, en fait, de cette micro-échelle qui est cet élément encore qu'on va poser un par un pour constituer la structure et qui, dans tout le processus, rappelle la main depuis la terre crue, finalement la brique en terre crue, qui est fabriquée par juste une quinzaine de personnes, même si c'est 550 000 briques qui ont été cuites et puis qui sont mises à l'œuvre. Et là, on se rend compte qu'il faut encore former, en fait, parce qu'on a oublié comment construire. Il y a moins de maçons aujourd'hui, et du coup, on a fait appel à des compagnons pour venir en fait, former une équipe, pour retravailler et reconstruire et faire la maçonnerie, en fait, et construire une structure en brique. Ce qui est étonnant aussi, c'est de voir finalement le dessin en fait s'imprimer à l'échelle 1 pour se guider en fait pour construire le bâti. et voir en fait la taille en fait de ce mur en fait qui est en structure complètement brique et qui fait cette portée et exprime une légèreté. Donc là, c'est les photos en chantier actuellement pour ce projet qui va se terminer, j'espère, en fin d'année. Et ici, on rentre vers l'extérieur. Et puis, sur la toiture, une charpente en bois, donc qui crée la toiture du bâtiment, puisqu'il y a des sheds aussi qui doivent se dessiner là-dedans. Donc, cette structure en briques. Et là, je vais rentrer un peu en technique pour les non-architectes. Peut-être, voilà, c'est un peu pour raconter en fait comment on part en fait de, on mesure l'énergie d'un tel bâtiment parce que c'est intéressant aussi de voir comment la forme en fait épouse finalement ce travail technique autour du calcul énergétique du bâtiment qu'on a fait avec Franck Boutet. Et puis, en fait, comment, à partir d'un bâtiment qui consomme classiquement beaucoup d'énergie, on optimise petit à petit. Et la première étape était d'optimiser de façon bioclimatique le bâtiment, donc le bon sens, en fait. Comment construire, comment poser le bâtiment dans son contexte, en profitant des ressources naturelles. Et il s'agit, par exemple, dans le bâti, de poser les ateliers là où il y a un éclairage du nord, où il y a moins d'ensoleillement direct, de poser le programme de manière un peu plus sensible par rapport à ce contexte pour diminuer les besoins en chaud et en froid du bâti. Et puis, éclairer encore plus, c'est-à-dire amener des sheds qui viennent éclairer les ateliers à l'intérieur, ce qui améliore en fait le confort visuel. Donc, on a moins besoin d'allumer la lumière et on diminue nos besoins d'éclairage. C'est des éléments finalement très basiques, finalement intuitifs, sur lesquels on travaillait toujours depuis très longtemps. Et puis un calcul précis avec les outils qu'on a aujourd'hui de l'apport en lumière à l'intérieur du bâti et à l'intérieur aussi des ateliers, amener une ventilation naturelle pour pouvoir en fait permettre au bâtiment de respirer et d'évacuer la chaleur. Et puis profiter de la végétation environnante pour parfois en fait quand on est l'été avec les feuillages protéger la façade du soleil direct et quand on est en hiver avec le manque de feuillage des arbres ça permet de réchauffer la façade et donc de diminuer le réchauffement ou bien le besoin en chaud du bâtiment. Le travail avec la brique, c'est aussi une manière d'augmenter l'inertie du bâtiment, donc de lui permettre plus de stabilité en fait, énergétique. Et on peut se poser la question, la brique, elle consomme beaucoup de carbone parce qu'elle est cuite. C'est vrai que dans le calcul global, en fait, entre ressourcer un matériau de très loin ou localement, c'était la matière la plus intelligente à utiliser pour le site. Et on voit par cette approche bioclimatique que déjà, on a moins 30% à peu près de besoins de chaud et de froid au bâtiment. C'est-à-dire qu'on a besoin de chauffer moins le bâtiment et de refroidir moins le bâtiment. Parce que en fait, le point de référence est toujours un peu la zone de confort en fait, de l'humain. C'est cette zone jaune qui est autour de, je pense, 22 degrés. Et qui finalement, on essaye toujours de climatiser le bâti pour arriver à cette zone-là. Et avec une approche bioclimatique, on se rapproche en fait. On a vraiment moins besoin d'énergie pour le bâti. Et à partir de là, comment on peut ramener une énergie renouvelable, une énergie plus propre en fait. Et dans le site, on a vu que la géothermie était une solution plutôt intelligente, plus intelligente que d'autres types d'apport en énergie. Et puis pour amener de l'électricité, calculer en fait chaque outil en fait qui est utilisé à l'intérieur pour calculer les besoins. Et puis, compenser ces besoins avec une énergie solaire, des photovoltaïques. Donc, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, des énergies plus renouvelables. Et de là aussi, voir quel est l'impact carbone, en fait. Comment on peut... est-ce qu'en utilisant ce type d'énergie et cette démarche en fait, de projet, est-ce qu'on arrive à économiser de notre impact carbone et on réalise qu'on est à moins 70%, plus que 70% d'un bâtiment classique. Et puis après, partir de chaque élément, en fait, de chaque constituant du bâtiment pour encore aller plus loin dans le bilan carbone et le diminuer petit à petit. Et atteindre un seuil moins élevé dans notre impact. Bien sûr, quand on construit, on a tout de suite un impact. Et avec Catherine, une fois, on parlait de cet impact carbone, en fait, qu'à chaque fois qu'on construit, on détruit, on a un impact. Mais il s'agit toujours de compenser, en fait, de comment on arrive à compenser cet impact-là et jusqu'où. Puisque, en fait, aussi, on produisait beaucoup d'énergie. On se posait la question, est-ce qu'il faut amener des batteries pour stocker cette énergie et le distribuer ? Finalement, les batteries plombaient notre bilan carbone. Donc, on a décidé de ne pas avoir des batteries. Et puis, de compenser, en fait, avec un paysage, un travail paysager, une mise en place d'un système aussi de prise de conscience en fait de l'environnement, écouter ce paysage dans sa nature, dans ses qualités, faire le moins possible. Et on travaille ici avec Eric Dont sur le paysage de l'environnement de cette manufacture. On va ici. Ça, c'est les images qu'on avait produites pour le concours qui ont effrayé la maîtrise d'ouvrage. Et puis, voilà le bâtiment. Merci beaucoup. J'aimerais juste remercier aussi toute l'équipe qui travaille à l'atelier, qui travaille très dur tout le temps pour ces projets, tous nos partenaires et tous les bureaux d'études, les maîtrises d'ouvrage, parce que sans eux, on ne peut pas faire des projets ambitieux. Merci beaucoup.